fanpage del ROI.
Bonjour à tous. Qui est la première connectée? Je ne vois pas. Il y a une personne de connectée, mais je ne vois pas c'est qui. Donc on va attendre. Alors Hugo, tu m'apparais comme le premier connecté. Bien le bonjour à toi. Il est déjà rendu 14h chez vous ou 13h. Est-ce que vous avez changé l'heure en France? Ici on a avancé l'heure d'une heure, donc soit il est 14h. 20 chez vous où il est 13h20. Bonjour Sampa Wende, Dieu te bénisse. Bonjour Immacula, bien le bonjour. Alors la chaleur commence à s'implanter à Montréal. Ce matin à 5h, il faisait déjà 2 degrés. Donc 13h22 en France. Donc vous n'avez pas encore changé l'heure. Est-ce que tu sais quand vous changez l'heure de votre côté de l'Atlantique? Bonjour Guy. Dieu te bénisse. J'ai oublié de t'appeler Guy. J'ai été tellement pris avec les questions d'inondation et quelque autre petit tracas, donc j'ai oublié de t'appeler, mais je dois t'appeler. Je dois absolument t'appeler. Sois béni, Guy. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Quelques petits réglages. Bonjour à Flori et à Louis. J'ai toujours de la misère à savoir aussi au Québec à quel moment on change l'heure et tout ça, donc je le fais habituellement parce que les médias l'ont rapporté. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour à mon épouse qui nous écoute en différé aujourd'hui. Elle est au travail. Demain, elle sera là à la maison. Elle a encore pas mal de journées de vacances à prendre qu'elle répartit un peu comme ça à droite et à gauche. Donc, aujourd'hui, elle est au boulot par contre. Mais je sais qu'elle est supposée regarder en différé, donc. Bonjour Sylvie, soyez bénie. Je parlais il y a quelques jours avec Daphné, je lui disais, j'ai hâte de faire une réunion non virtuelle avec tous les abonnés réguliers à la bénédiction matinale. Faire une réunion en personne pour tous ceux qui ont l'habitude d'être branchés avec la bénédiction matinale, afin de vous voir le visage en vrai. Bonjour Farley, bonjour Marie-André, bonjour à Argelia, bonjour à Nancy. Tu veux dire bonjour, c'est ça? C'est fini. Ok. Voilà. Ok, c'est bon, fini. Elle va revenir. Oui, tu fais la star de la bénédiction matinale, on le sait. On le sait, c'est toi la star. Voilà. Bonjour Thérèse, Dieu te bénisse. Alors ce matin, on étudie Lévitique 25, le verset 18. C'est sûr que pour toi, Hugo, de venir nous faire la visite depuis Nice, ça serait compliqué. Mais éventuellement, on veut passer à la diffusion tant sur Facebook que sur Zoom. Alors, ça serait l'occasion de te voir bouger plus que sur une photo. Donc, si on fait une réunion un jour, il y aura quand même la possibilité de le faire avec Zoom pour ceux qui sont au loin. Bonjour Denise, bonjour Gérard. De toute manière, pour l'instant, on est en zone rouge Montréal. Et zone rouge veut dire que à partir du 26, je crois. Donc, je ne sais pas quand ça tombe, 26, le samedi prochain, quelque chose comme ça. On peut passer à 25 personnes dans le public. Donc, ça reste encore compliqué pour les bénédictions matinales, faire une réunion tous ensemble, puisque c'est juste 25 personnes. Mais un jour, on aura l'occasion de se réunir avec un plus grand nombre. Et je l'espère, sans restriction et sans masque. Donc, pas trop longtemps. Ça risque de tarder encore un peu, ça, mais bon. On se réjouit avec ce qu'on a et on sert le Seigneur du mieux qu'on peut dans les contextes actuels. C'est vrai qu'à travers les bénédictions matinales, on a fait la rencontre de plusieurs personnes qui, au fil des mois, se sont jointes à nous à travers cette publication Facebook. Et ça a été l'occasion de belles rencontres. Donc, c'est chouette. Et j'ai hâte de tous vous rencontrer en personne. Oh, Jimmy, bonjour. Bonjour, Natacha. Bonjour, Indirène. Jimmy, ne t'inquiète pas, la montagne russe de température est en train de partir. Il n'y a plus beaucoup de gel et de neige qui sont attendus pour les prochaines semaines. À partir de maintenant, on s'en va vers des températures, ça c'est une expression très québécoise, des températures. On y va vers une météo qui est beaucoup plus clémente. De la pluie, par moment, bien sûr, parce qu'on est dans le printemps, mais les degrés ne vont faire que monter. Voilà. Donc, je suis allé amener Daphné au travail en Bermuda et en t-shirt ce matin. Et elle me disait que je faisais partie des rares personnes, qu'elle réfléchissait, que je faisais certainement partie des rares personnes qui ne souffrent pas du froid. Et je lui ai dit que la personne qui était anormale, ce n'était pas moi. C'était tous les autres qui craignent le froid. Alors, encore un petit instant. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Lévitique 25. On va lire bien entendu du verset 13 jusqu'au verset 18 et on va reprendre par la suite le verset 18. On va prier tout d'abord. Alors prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, un moment, Seigneur, encore riche d'instructions et d'enseignements pour nous tous, un moment, Seigneur, à travers lesquels ou lequel tu veux nous bénir, non seulement par ta présence, mais aussi une provision qui émane de l'éternité, qui a été préparée par toi. de toute éternité pour nous. Alors aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas le fruit du hasard, des circonstances, que nous sommes là. C'est le fruit de ta décision, de ta conduite, de ta direction pour chacun d'entre nous. Tu savais qu'on serait là et tu savais qu'on serait à l'écoute et tu savais, Seigneur, ce dont nous avions besoin de partager. Alors on te prie, Seigneur, que tu puisses effectivement répandre ta grâce sur ma sœur et sur mon frère, que tu puisses, Seigneur, nous accorder sagesse et entendement pour ta parole et que tu puisses, Seigneur, librement et dans toute sa plénitude déverser sur nous ta riche parole. Qu'elle soit une source de bénédiction, qu'elle puisse s'enraciner en nous, qu'elle puisse croître, arrosée par l'onction de ton esprit, et qu'elle puisse porter un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous dans Lévitique au chapitre 25, le verset 13 à 18, et je relirai par la suite le verset 18 qui est à la base de nos échanges de ce jour. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années du jubilé, et il te vendra en comptant les années du rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset 18. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Je répète, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Alors que Dieu bénisse sa parole encore une fois ce matin. Six mots importants dans ce verset que nous venons de lire, dans le verset 18, je vais juste remettre ça à l'endroit. Donc six mots qu'on va essayer d'expliquer. La plupart d'entre eux, vous les avez déjà entendus de ma bouche à travers toute cette année de bénédiction matinale. C'est des mots que vous avez déjà notés pour ceux qui prennent des notes, mais ça sera un rappel pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ce sera peut-être une certaine découverte. Mettez mes lois en pratique, c'est le premier point. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, deuxième point. Et par la suite, c'est ainsi que vous habiterez en sécurité dans le pays. Trois étapes qu'on va faire successivement tous ensemble. Pratiquez mes lois. Mettez mes lois en pratique. Le terme pratiquer, le terme hasard, A-S-A-H, je répète, hasard, A-S-A-H, qui veut dire créer, préparer, produire, activer, mettre en ordre ou faire exécuter une chose. La loi, le shukar, C-H-U-Q-Q-A-H, C-H-U-Q-Q-A-H, qui parle de statut, qui parle de limite, qui parle de prescription et d'un mode d'opération. Donc Dieu est en train de dire ici à son peuple, après avoir parlé de la transaction qui s'opère entre deux individus, et comme on l'a vu cette semaine depuis dimanche, on se rend compte que c'est bien au-delà d'une prescription simplement sur une pratique commerciale. Cet enseignement qui nous est donné par Dieu est en fait un enseignement sur les relations interpersonnelles, comment on doit veiller les uns sur les autres, comment on doit prendre soin les uns des autres, comment on doit se protéger mutuellement et comment on doit en fait vivre une vie altruiste où on fait passer le besoin de l'autre avant le nôtre. Sachant de toute manière que si effectivement l'ensemble de la communauté opère selon cette même règle, ça veut dire qu'au même titre où moi je prends soin de mon prochain, mon prochain aussi prend soin de moi. C'était un moyen que Dieu utilisait pour que l'ensemble du peuple d'Israël soit pris en main, pour que l'ensemble du peuple d'Israël reçoive les soins adéquats et qu'il reçoive aussi la protection qui se devait. Et Dieu va conclure cette section-ci en disant « Pratiquez mes lois. Pratiquez mes lois. » Les lois sont donc des statuts, des limites, comme on a vu tout à l'heure. C'est un peu comme des garde-fous que le Seigneur établit. C'est des prescriptions qu'il nous donne. Il dit « Va à droite, va à gauche, ne te détourne pas de mon chemin, ne retourne pas en arrière, fais de cette manière ou de telle autre manière. » Donc, c'est une espèce de mode d'opération, un genre de guide de l'utilisateur que Dieu donnait. Et il va dire à propos de cela, mêler en pratique, mêler en activité. Vous savez qu'un code de loi, on peut le connaître par cœur, mais ne pas l'appliquer. Un code civil, on peut l'avoir étudié pleinement, mais ne pas vivre selon les prescriptions de ce même code civil. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, effectivement, on nous enseigne à travers la Bible ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu approuve, ce que Dieu condamne, ce que Dieu désapprouve. Et ce faisant, on a une bonne connaissance, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, une bonne idée de ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et il nous dit donc que nous devons mettre en pratique ce que Dieu requiert. Alors, la première question pour toi et pour moi, c'est dans ma vie personnelle, dans ma pratique de tous les jours, dans mon cheminement avec Dieu, est-ce qu'effectivement je suis en train de pratiquer les préceptes de Dieu? Disons que Dieu dit « tu ne voleras pas ». Alors, effectivement, est-ce que je vole ou je ne vole pas? Si Dieu dit « tu ne mentiras pas », alors est-ce que je mens ou je ne mens pas? Si Dieu dit « tu ne voleras pas », alors est-ce que je vole, et ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, est-ce que je vole ou je ne vole pas? Si Dieu dit d'être soumis à ses parents, c'est un verset qui existe, ça fait partie des commandements, et c'est le premier commandement même que Dieu donne avec une promesse. Si tu veux vivre de longs jours, il dit « obéis à tes parents, honore ton père et ta mère ». Alors, est-ce que tu honores ton père et ta mère? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Et cette pensée-là de mettre en pratique la parole de Dieu, on le voit très souvent, on y pense très souvent en matière de péché, en matière de ce que Dieu condamne et de ce que Dieu réprime ou désapprouve. Mais concrètement, ce verset-là arrive juste après les instructions divines par rapport à une vente de terrain, par rapport au jubilé et à la rétrocession des biens, mais plus encore, ça arrive dans la matière ou dans le sujet des relations interpersonnelles. Alors toi, dans tes relations interpersonnelles, et moi-même, par conséquent, dans mes relations interpersonnelles, est-ce que j'applique les principes de Dieu? Est-ce que je fais preuve de grâce? Est-ce que je fais preuve d'abnégation? Est-ce que je fais preuve d'altruisme? Est-ce que je fais preuve de bonté? On a vu dimanche, et c'était Catherine avec Daniel qui présentait leur petit Mathéo, et elle a donné un texte en lecture que le Seigneur avait mis dans son cœur, qui était dans 1 Corinthiens 13, qui est le fameux passage très célèbre sur l'amour. L'amour pardonne tout, il espère tout, il est patient, il est généreux, doux et autres. Donc, est-ce que toi, dans ta vie personnelle, est-ce que tu appliques aussi ce passage de l'amour? On s'entend que l'amour duquel on parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est pas l'amour de soi. C'est pas un amour qu'on voue à notre propre personne. L'amour, logiquement, dans tous les textes bibliques, n'est aucunement en référence avec soi-même. À chaque fois qu'on va parler de l'amour dans la parole de Dieu, c'est toujours quelque chose qui est axé vers l'autre. Dans la pensée très moderne, très contemporaine, dans la psychologie très contemporaine, on a essayé de prôner tout d'abord un amour vers soi, un amour pour sa propre personne en prétextant que si nous ne nous aimons pas adéquatement, nous serons donc incapables d'aimer les autres. Si nous ne nous aimons pas adéquatement, nous ne serons pas capables non plus d'apprécier à leur juste valeur et de recevoir à sa juste valeur l'amour qui vient d'autrui. Bibliquement parlant, il n'y a pas un passage qui nous dit de s'aimer personnellement. En fait, on nous parle à mourir à soi-même. On nous parle de aimer son prochain, de donner sa vie pour son prochain. En fait, on nous dit de négliger jusqu'à un certain point notre propre existence au profit des autres. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de demain, tout le monde doit faire un vœu de pauvreté, que tout le monde doit être ascétiste? Ça veut dire on se malmène, on se réprouve soi-même, on s'auto-flagelle. C'est pas de ça qu'on parle. On n'a pas vu Jésus qui se faisait lui-même des coups de fouet sur le dos. On a vu Jésus qui mangeait. On a vu Jésus qui allait dans des fêtes. On a vu Jésus qui avait faim et qui faisait en sorte qu'un figuier porte du fruit. Et lorsque ce figuier ne porte pas de fruit, il le maudit. Donc, on a vu Jésus prendre soin de sa personne, ce qui est dans un niveau normal. Là où ça devient malsain, c'est lorsque notre protection de soi-même, lorsque notre protection de nous-mêmes ou notre prise en compte de nous-mêmes et notre prise en soin de nous-mêmes devient plus importante que celle qu'on devrait vouer à autrui. Notre première concentration doit être Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. La deuxième préoccupation pour le chrétien doit être « aimez-vous les uns les autres ». Donc « aimez-vous les uns les autres » qui veut dire que moi j'aime les autres et que les autres m'aiment aussi en retour. Ça veut donc dire que première priorité reste l'amour voué à Dieu. La deuxième priorité dans la vie du chrétien, c'est donc l'amour du prochain. Lorsque l'amour pour moi-même vient avant l'amour du prochain, on est en train de changer les règles de Dieu. Donc, est-ce que je mets en pratique ce que Dieu requiert dans ma vie en général, mais plus particulièrement dans l'étude de cette semaine, est-ce que je mets en pratique les prescriptions de Dieu au niveau des relations que j'ai avec mon prochain? Est-ce que je l'aime comme la Bible m'appelle à l'aimer? Est-ce que je prends soin de lui comme les Écritures me disent de prendre soin de lui? Est-ce que ma vie est vouée à l'existence d'autrui ou ma vie est foncièrement vouée à ma propre personne? Et je comprends que, de par notre nature, et on l'a déjà expliqué hier ou avant-hier, de par notre nature pécheresse, notre première préoccupation à cause du péché et à cause de notre nature de pécheur, est vouée d'abord à nous-mêmes. C'est la première tentation qui a été offerte à Adam et Ève. C'est la tentation qu'on a fait subir à Jésus juste après son baptême, après ses 40 jours de jeûne. On voit Adam et Ève où on leur dit « Non, vous ne devez pas obéir à Dieu parce qu'il sait que de toute façon, si vous mangez de cet arbre-là, vous serez comme des dieux. » Donc, soyez insatisfaits de votre condition et mettez-vous de l'avant pour être égal à Dieu. Donc, pensez à vous-même. Lorsque on voit les tentations par rapport à Jésus, si tu as faim, dis à cette pierre de se changer en pain et tu vas pouvoir manger. Si tu te jettes en bas du temple, de toute façon, ils ont dit qu'ils allaient prendre soin de toi. Donc, amène l'attention sur toi. Amène l'attention sur ta propre personne, attention de Dieu, attention des entités spirituelles que sont les anges, attention de ce que les gens pourraient faire à ton égard. Et troisième tentation, c'est si tu te prosternes devant moi, alors tous ces royaumes que tu vois sont à toi. Si tu veux tous ces royaumes pour toi, alors adore-moi. Et ça, voici le profit que tu vas pouvoir tirer de faire cette pratique. Et très régulièrement, dans notre vie chrétienne, on marche aussi avec cette même pensée. Qu'est-ce que je peux tirer de telle situation? Qu'est-ce que je peux tirer de telle fréquentation? Qu'est-ce que je peux tirer de tel investissement dans une relation interpersonnelle avec mon prochain? Si je lui fais du bien, qu'est-ce que moi je vais en tirer? Il y a des gens qui rentrent dans le mariage en se demandant, mais en fait, en rentrant dans le mariage, en espérant tirer quelque chose. Et ils fonctionnent tout au long de leur vie maritale avec qu'est-ce qu'elle va m'apporter ou qu'est-ce qu'il va m'apporter. Et le jour où j'ai le sentiment que je donne plus que je ne reçois, ben à ce jour-là, les choses ne fonctionnent plus. Dans le fin fond, ce qui est en train de se passer lorsque j'arrive dans cet état d'esprit, c'est que je laisse de côté mon altruisme, je laisse de côté mon don pour les autres, mon don pour l'autre, dans le cas d'un problème marital, et je dis, maintenant, je pense à moi. J'ai assez pensé aux autres, je pense à moi. Jésus a pensé à toi jusqu'à mourir sur la croix. Et c'est l'exemple ultime. Tu vas me dire, ouais, mais Jésus, c'était Jésus. Effectivement, Jésus, c'était Jésus. Et il était parfaitement homme. Et lorsqu'il a décidé de se donner totalement pour toi et pour moi, c'est toute sa volonté humaine qui a pris cette décision-là. Dans un couple, c'est la même chose. Dans une famille, c'est la même chose. Dans une église, c'est la même chose. Dans une société, ça devrait être la même chose. Nous devons apprendre à vivre pour l'autre, concentré sur Dieu, concentré sur notre prochain. Et après ça, faire confiance à Dieu que lui prendra soin de moi. S'il ne prend pas soin de moi, c'est qu'il est menteur. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il ne prend pas soin de moi, c'est que tout ce qu'il a dit dans sa parole, je peux mettre un bémol et un point d'interrogation, puisque dans ce point-ci, il a déjà failli. Notre Dieu ne faillit jamais, notre Dieu ne ment jamais. Si moi je suis voué à Dieu, si je le mets comme première priorité, si comme deuxième priorité c'est mon prochain, alors Dieu prendra soin aussi de moi. Alors est-ce que je pratique ce que Dieu requiert dans ma vie en général? Est-ce que je pratique les lois de Dieu, ses préceptes, son mode d'opération, son mode de fonctionnement? Et de surcroît à cela, est-ce que je pratique les prescriptions de Dieu en matière de relation avec mon prochain? Deuxième point. Après avoir dit de mettre en pratique ces lois, il va dire « Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. » Observez mes ordonnances. Observez, comme on a vu tout à l'heure, c'est le terme « shamar » qui veut dire « garder, préserver, maintenir, protéger ». Et il va dire de surcroît aux ordonnances, de les pratiquer aussi. Et ça, pratiquer, on l'a vu tout à l'heure, le terme « shamar » qui veut dire « mettre en action ». Mettre en ordre, faire, activer, exécuter. Mais dans observer, c'est un autre sens. Ça a deux connotations. Observer, il y a ce travail de regarder, de contempler, d'apprendre. Mais de surcroît à cela, il y a aussi le travail de préserver, de garder et de maintenir. Les ordonnances, ce sont des jugements. Ça va plus loin que la loi. La loi, c'est « voici ce que je veux que tu fasses », tandis que des ordonnances, dans le terme « mishpat », qu'on a déjà étudié par le passé, « mishpat », « m-i-s-h-p-a-t », je répète, « mishpat », ordonnance, « m-i-s-h-p-a-t », on parle à ce moment-là de jugement, de décision rendue, de sentence et de condamnation. En fait, ici, Dieu est en train de dire « dans une première étape, je vous ai dit, mettez en pratique mon mode de vie, mettez en pratique mes préceptes, mettez en pratique mes demandes, ce que je requiers de votre part. Mais dans un deuxième point, Dieu va dire, préservez ceux que j'ai déclarés comme étant condamnés. En fait, foncièrement, il est en train de dire, préservez comme bon ce que j'ai appelé bon, et préserver comme mal ce que j'ai appelé mal. Je répète, préserver les ordonnances de Dieu, c'est préserver comme bon ce que Dieu a déjà déclaré comme bon, et préserver comme mal, maintenir avec sa qualité comme étant mal, ce que Dieu a déjà déclaré mauvais. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qui ont été établies clairement dans la parole de Dieu, notamment le péché. Ce qui était péché au tout début de l'humanité est encore péché aujourd'hui. S'il y avait un changement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans la définition du péché. Ça voudrait donc dire qu'il y a des choses pour lesquelles j'aurais pu être coupable auparavant et je ne le suis plus aujourd'hui parce que ce n'est pas une faute. Et de surcroît à cela, ça pourrait vouloir dire aussi, ben si les règles de Dieu se sont intensifiées, alors autrefois je pouvais faire telle chose et maintenant je n'ai plus le droit. Les lois de Dieu sont immuables, elles sont éternelles. Il y a les préceptes de Dieu, ce que je conseille, ce que je désire, ma volonté, mais de surcroît à ça, il y a des choses que j'ai déjà condamnées, que Dieu a déjà condamnées. Et ces choses qu'il a condamnées se maintiennent comme étant condamnées. Par exemple, le vol était condamné dans l'Ancien Testament, le vol est encore condamné dans le Nouveau Testament. Le vol est, l'adultère était condamné dans l'Ancien Testament, l'adultère est encore condamné dans le Nouveau Testament. Le meurtre était condamné dans l'Ancien Testament, le meurtre est condamné dans le Nouveau Testament. Alors il nous faut apprendre aussi non seulement le code civil, donc les pratiques que Dieu espère de chacun d'entre nous, mais être capable aussi de déclarer ce que Dieu a jugé comme bon et ce que Dieu a jugé comme mauvais, et ne pas changer ces choses. Malheureusement, avec la culture contemporaine, avec l'évolution, et c'est souvent pas une bonne évolution de notre société jusqu'à ce jour, il y a des choses que Dieu avait déclarées péché, et aujourd'hui, des centaines, voire des milliers, des millénaires plus tard, ben il y a des choses qu'on, parce que tout le monde le fait, c'est rendu correct. Le meurtre reste un meurtre, quelle que soit la forme de meurtre. Et voilà pourquoi, en grande partie, l'Église s'oppose aussi à l'avortement. Pourquoi? Parce qu'on considère que cette vie-là existe déjà dans le sein de la maman. Lorsqu'effectivement, il y a eu fécondation, ce fœtus-là est déjà une vie à part entière et la détruire serait un meurtre. Ce qui était considéré comme meurtre à l'époque de l'Ancien Testament l'est encore aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous faut aujourd'hui aussi connaître les lois de Dieu et ne pas changer ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce deuxième point? On dit maintenir ce qui est bon aux yeux de Dieu comme étant bon et ne pas le décrire comme étant mauvais. Donc, s'élever contre certaines pratiques sociales, s'élever contre certaines pensées très contemporaines que Dieu n'approuve pas, ça serait aller à l'encontre de Dieu. Dans un cas complètement opposé, prendre une loi de Dieu qui dit ceci est mauvais et en faire une bonne chose, comme l'avortement, comme l'euthanasie, ça c'est mettre fin à une vie. Et Dieu ne nous permet pas de mettre fin à une vie. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas déclarer comme étant bon ce que Dieu avait déjà déclaré comme étant condamné. Et idem dans nos relations interpersonnelles. Tout à l'heure, on disait, on doit voir le mode d'opération qu'on a dans nos relations interpersonnelles et voir est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu. Mais de surcroît à cela, dans nos relations interpersonnelles, il nous faut aussi les appliquer selon la loi de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet dans une relation interpersonnelle, il y a des choses que Dieu ne permet pas dans une relation interpersonnelle. Prenons tout simplement la question de la débauche, donc, ou de la fornication, donc la relation sexuelle avant le mariage. Bibliquement parlant, la relation sexuelle est réservée à un couple marié. Pratiquer la sexualité à l'extérieur des pourtours d'un mariage, c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la fornication. Et la fornication est un péché. Dieu a déclaré que c'était mauvais. Dieu a déclaré qu'il condamnait la chose. Alors, si moi je n'obéis pas selon les règles de Dieu, si je ne vis pas selon les lois de Dieu, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est dire tout le monde le fait aujourd'hui, alors ça doit être bien. Ce n'est pas parce que tout le monde pratique le péché que le péché est nécessairement approuvé. En fait, il ne peut pas être nécessairement approuvé. Le péché, de par sa nature, est condamnable et déjà condamné de Dieu. Donc, voyons, dans mes relations personnelles, dans mes relations avec autrui, est-ce que je pratique cette relation avec les normes, avec la pensée? avec les préceptes de Dieu et de surcroît à cela, est-ce que je garde saint ce que Dieu a déclaré saint? Est-ce que je garde perfide ce que Dieu a déclaré perfide? Ou j'essaie d'entremêler tout ça pour faire une nouvelle loi religieuse, spirituelle, une nouvelle interprétation de la Bible qui nous permet tout simplement de faire à peu près ce qu'on a envie, tout simplement selon notre propre cœur. Là encore, ça serait mettre notre personne avant la personne de Dieu, mettre notre pensée avant la pensée de Dieu. Alors soyons décidés, soyons engagés dans ce travail à réfléchir, à étudier la parole de Dieu pour savoir pleinement ce que Dieu approuve de ce qu'il désapprouve. Et sachons le maintenir ainsi dans nos vies en général, mais aussi dans la question de nos relations interpersonnelles. Et la Bible nous dit, dans ce passage, que ce faisant, nous vivrons alors en sécurité dans le pays. Vous habiterez en sécurité dans le pays. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Habiter, c'est le terme Yashab, Yashab, qu'on a déjà vu dans certains autres passages lorsqu'on parlait du terme vivre. Donc, c'est être établi, être habitant, demeurer dans un endroit. Et sécurité, et ça, c'est un nouveau terme pour nous, c'est le terme betach, donc B-E-T-A-C-H, qui parle de quelque chose qui est sécuritaire, qui parle de quelque chose qui donne de l'assurance, quelque chose qui donne de l'espoir, de la confiance et quelque chose qui nous met dans un état de sûreté. Donc, être tranquille, apaisé, sans menace sur nous. Une société qui vivrait selon les préceptes de Dieu et qui vivrait selon les lois de Dieu, donc des lois de bonté, d'altruisme, de grâce, d'amour, réprimant ce que Dieu n'aime pas, fuyant ce que Dieu condamne, alors cette société vivrait dans l'amour, dans la paix et dans la sécurité. C'est un calcul tout simplement logique de 1 plus 1 et je vous l'exprime très facilement pour conclure ce matin. Si on prenait tout simplement à cœur tous et chacun de vivre avec le principe de « aimez-vous les uns les autres ». Jésus va dire le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton être. Donc, si tu aimes Dieu avec tout ce que tu as, et en deuxième partie, tu aimes ton prochain, aimez-vous les uns les autres, à ce moment-là, tu n'as plus rien à craindre. Parce que au même titre où tu as aimé Dieu et Dieu met sa bénédiction sur toi, au même titre où tu as aimé ton prochain et ton prochain t'aime aussi, tu n'as plus d'ennemis. Alors, une société qui vivrait selon les principes de Dieu, en respectant les lois de Dieu qui prônent la grâce, l'amour, la bonté, l'altruisme, la générosité, la douceur, la patience et tout ça. Donc, en appliquant ces fruits de l'esprit, en appliquant ces normes de l'amour de Dieu, ce faisant, je prends soin de mon prochain, mais mon prochain prend soin aussi de moi. Vous allez me dire, c'est une utopie. C'est effectivement une utopie. C'est effectivement quelque chose qui est irréalisable ici-bas sur Terre. Pourquoi? Parce qu'un jour, Adam et Ève ont décidé de céder à la tentation, de penser à eux premièrement, et par la suite, chacun d'entre nous, on a reproduit la même chose. Mais si aujourd'hui, en tant que croyant, dans la communauté chrétienne en commençant, plus bas encore que cela, si aujourd'hui, dans le cercle un clos qu'est un couple, dans le cercle restreint que serait une famille, dans le cercle restreint que serait une communauté locale comme une église locale, si on appliquait pleinement « aimez-vous les uns les autres », la vie serait nettement plus agréable est nettement plus facile. Je rentrerai à la maison en sachant que à la maison, il y a cet endroit de repos, cet endroit où de paix, cet endroit de calme, de douceur, de sérénité, de grâce, où on me permet d'être qui je suis et où je permets à l'autre d'être qui l'autre est appelé à être, et où nous nous protégeons l'un l'autre et où nous nous aimons l'un l'autre. Autant je donne à l'autre, l'autre me donne aussi. Si on appliquait les lois bibliques dans le cercle restreint du couple, nos couples iraient beaucoup mieux. Si on appliquait ces principes bibliques, ces lois et ces préceptes et ces commandements de Dieu au niveau de la famille moléculaire ou la famille nucléaire plutôt, que nous pouvons être entre papa, maman et les enfants, si on appliquait cela, ben la famille fonctionnerait mieux. Si on appliquait cela au niveau de notre église locale, nos églises locales fonctionneraient mieux aussi. Et ce faisant, on serait des témoignages pour autrui de par notre couple, de par notre famille et de par l'église locale que nous représentons et de par aussi l'église globale, l'église universelle que représente l'ensemble des enfants de Dieu. C'est un défi pour toi et pour moi. Mais au même titre où Jésus va dire à certains qui ont péché et qui ont été guéris par lui à l'occasion, il va dire « va et ne pêche plus ». Ça veut donc dire que toi et moi, on a encore cette possibilité de vivre notre vie ici-bas sur terre en respectant les mandats, les préceptes, les lois et les commandements de Dieu. En fait, l'homme a été foncièrement stupide et imbécile de laisser les lois de Dieu, de laisser les préceptes de Dieu et de se mettre à l'avant-plan. Ce faisant, il a perdu la bénédiction divine. Ce faisant, il s'est fait ennemi de son prochain, et son prochain est devenu son ennemi, et ce faisant, nous ne vivons plus en sécurité. Alors que si je vivais dans un milieu où nous nous aimons véritablement, sincèrement, honnêtement, sans penser à nous-mêmes, sans penser à manipuler les autres pour qu'est-ce qu'on pourrait en retirer, on vivrait dans une société qui serait nettement mieux. Et le ciel, c'est ce qui va se passer. Dans le ciel, lorsque nous serons avec le Seigneur, il aura effectivement la primauté sur tout et nous vivrons dans la perfection de l'application des lois et des préceptes de Dieu, donc avec un climat de sécurité, de paix. Et c'est un des grands points qu'il y a de divergence entre ceux qui vont au ciel et ceux qui vont en enfer. Ceux qui vont en enfer sont privés de la grâce de Dieu, sont privés de la présence de Dieu, cette présence qui rassure, qui apaise, qui sécurise. Donc pour le restant de l'éternité, ceux qui n'auront pas choisi Jésus comme maître et seigneur vont se vouer à un endroit de jalousie permanente, de crainte permanente, de suspicion permanente. Et on a vu la semaine dernière cette suspicion qu'on peut avoir les uns envers les autres qui ruine notre âme, qui ruine notre joie, qui ruine notre paix. Alors je prie ce matin que cette parole puisse trouver pour toi et pour moi un terrain profitable, afin que dans le peu de jours qui nous reste à vivre, dans le peu de semaines, de mois, d'années qui nous reste à vivre, que nous puissions, de décennies, si c'est le cas, que le Seigneur puisse nous donner l'occasion de vivre, mais en honorant ses lois, en pratiquant ce qu'il requiert, en maintenant les choses qu'il a condamnées telles qu'elles sont, et en maintenant les choses qu'il a déclarées comme saintes, comme sacrées, et en vivant cette société d'altruisme, cet échange d'altruisme, et cet échange d'abnégation, si on le fait, on va vivre beaucoup plus en paix et beaucoup plus heureux. Alors voilà ce que nous avions pour nous ce matin, et on va prier après quoi, on va voir si on peut saluer quelques personnes de plus ce matin. Alors merci Seigneur d'être avec nous, merci de nous confronter avec ta parole, merci de nous appeler à l'excellence et au perfectionnement. Nous savons, Seigneur, que tu as encore du travail à faire dans nos vies. Il y a encore du changement qui doit s'opérer en nous. Mais nous avons cette assurance que notre vie est comme de l'argile entre tes mains et que tu la façonnes quotidiennement. On veut simplement S'assurer, Seigneur, que nous restions comme de l'argile qui est malléable, pas de l'argile qui s'est asséchée, qui n'est plus transformable. Seigneur, hydrate-nous si besoin est. Rajoute, Seigneur, un peu d'argile, de poussière en nous pour assécher si on est trop flasque, tout simplement parce qu'on veut devenir les vases d'honneur que tu désires que l'on soit et être utilisé pleinement à l'avancement de ton royaume. On comprend, Seigneur, que s'élever contre tes lois et tes préceptes, c'est aussi s'élever contre toi. Et c'est se séparer de toi. Et nous ne le voulons aucunement. Alors tu nous dis, Seigneur, de t'honorer premièrement, puis, Seigneur, d'aimer notre prochain. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors, arrose cette parole par ta grâce et par ton onction, et que ma sœur, mon frère et moi-même, Seigneur, nous puissions prendre les décisions qui s'imposent, mettre en pratique ta parole et être des instruments de bénédiction, des instruments de grâce entre tes mains. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Simplement, laissez-moi remonter un peu pour saluer quelques personnes. Je remonte. Encore un peu. On y est presque. Donc, la dernière personne que j'ai saluée, je pense que c'était Jimmy. Bonjour Bernadette. Bonjour à Denis, cette fois-ci de Laval. Bonjour à Charlotte. Bonjour à Julie. Bonjour à Ozani et à Jean-Gilbert. Bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Rachel et aux sœurs qui se connectent avec elle habituellement. Mona, Chantal, Ocilia, la sœur Catherine. Bonjour à Soraya. Bonjour à Rosie. Bonjour à ma belle-mère et à ma belle-sœur. Ma ou mes belles-sœurs, je ne sais pas si elles sont une ou deux aujourd'hui, mais bonjour à vous deux. Bonjour à Marie-Marthe, à Georgette et à Andrise. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne journée. Je vous souhaite de pratiquer les lois de Dieu, d'observer ses ordonnances pour que vous viviez aujourd'hui en paix et en sécurité. Alors, on se retrouve demain, journée de jeûne et de prière demain, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Donc, deux réunions demain matin à 8h30 pour notre bénédiction matinale. Et bien entendu, notre prochain rendez-vous après cela, le soir venu à 19h pour notre soirée d'intercession et de prière. Alors, passez une bonne journée, que le Seigneur soit avec vous et on se retrouve demain. Au revoir tout le monde!